les enfants de Chronos. Bonjour à tous, chers auditeurs, Nicolas Bilot, archéologue. Bienvenue aujourd'hui dans le premier épisode de notre série consacrée aux châteaux médiévaux du Valois. Sur la route entre Villers-Cotterêts et Meaux, et plus largement au cœur des itinéraires de Soissons à Paris, se dresse fièrement la relique de ce qui aurait dû être un des châteaux les plus originaux de l'Occident chrétien du XVe siècle, la Ferté-Milon, classé monument historique en 1862. Le château de la Ferté-Milon est avant tout, depuis le XIIe siècle, le siège de la seconde châtellenie du comté de Crépy, et après la capitale elle-même, il est le marqueur de ce territoire. Rattaché au comté de Crépy en 1213, la Ferté-Milon sera offerte par Charles V à son fils puiné, Louis, qui restera dans l'histoire comme Louis d'Orléans, comte de Valois en 1392, puis duc en 1406. Du XIIIe siècle date l'enceinte de la ville et sa vingtaine de tours, ainsi qu'une charte communale. Louis d'Orléans, lui, décide la construction d'un nouveau château, probablement en 1399. Il a comme idée de le faire répondre à son autre grand œuvre, Pierrefonds, alors lui aussi en construction. Mais il avait décidé de composer avec l'ancien, à Pierrefonds, et il décide à la Ferté-Milon de faire table rase du passé et de bâtir ex nihilo. Il fait appel pour cela à des architectes de grand renom. On cite par exemple Jean Lenoir, maçon du roi au bailliage de Senlis, personnage très important, qui est déjà le maître d'œuvre du château de Pierrefonds à ce moment-là. Puis on trouvera Jean Aublet, intervenu lui également déjà à Coucy, l'ancien château d'Enguerrand, Enguerrand III puis Enguerrand VII, dont Louis d'Orléans s'était porté acquéreur et qu'il avait fait agrandir. Les deux architectes sont issus de l'école parisienne, où domine une figure, Raymond du Temple, dont le nom fut lui-même proposé comme intervenant à la Ferté-Milon. C'est possible, mais aucun document ne le prouve. Alors pour la Ferté-Milon, pour le château de la Ferté-Milon, il faut se figurer une grande façade de 104 mètres de long, plus qu'un terrain de foot, à laquelle sont greffées 4 tours, réunies par des courtines et le tout régnant à la même hauteur. Tout est d'ailleurs surmonté de consoles de mâchicoulis qui vous marquent un ancien chemin de ronde à la base de la toiture. N'y voyez cependant rien de réellement défensif, car les façades sont percées de grandes fenêtres à meneaux qui éclairaient au revers une aile de grand logis tout à fait confortable. Les fenêtres à meneaux sont des fenêtres que vous imaginez bien, hein, traversées par un grand meneau de pierre, une barre de pierre, et elles mesuraient jusqu'à 4,50 m de haut pour les plus grandes d'entre elles, et elles présentaient au revers des coussièges, ces sièges très élégants intégrés dans la maçonnerie, qui permettaient de s'asseoir derrière la fenêtre et de profiter directement de la lumière. Quant au petit jour que vous apercevez en fond de fossé lorsque vous vous promenez autour du château, il ne s'agit pas d'archères, mais simplement d'évents pour les grandes caves voûtées qui sont malheureusement inaccessibles aujourd'hui. Les tours sont toutes différentes. En tout cas, l'une d'entre elles l'est clairement dès que vous arrivez sur le site, elle est carrée. Toutes sont vastes, à 3 niveaux habitables au moins, équipées de cheminées et d'escaliers en vis pour les desservir directement, depuis l'arrière, depuis les logis. N'oubliez pas de vous figurer le site, avec une, bien entendu à l'origine une charpente et une toiture. Aujourd'hui, la façade mesure 26 mètres de haut depuis le bas des fossés, mais il faut vous figurer à l'origine une toiture qui devait dominer l'ensemble d'encore au moins une dizaine de mètres. En réalité, l'objectif principal de Louis d'Orléans était non pas de bâtir véritablement un château, au sens de château fort, l'expression qu'on utilise trop souvent pour les châteaux du Moyen-Âge, mais bien plutôt de bâtir un palais. Et si ce palais est puissant, c'est parce que nous sommes en face d'un édifice de transition entre les châteaux très fortifiés du plein Moyen-Âge et les palais purement résidentiels de la Renaissance. En ce sens, il a un pied dans chaque monde, et il est dû, en cela, à la fois au choix du commanditaire Louis d'Orléans, et à la fois au choix fort du parti architectural de ses maîtres d'œuvre, et à n'en pas douter, celui notamment de Jean Aublet, celui qui était intervenu à Coucy, celui qui sera intervenu aussi un petit peu, on le sait, à Montépilloy. Ce qui prouve le mieux ce parti architectural de transition, c'est probablement le grand programme de sculpture monumentale, que certains ont même qualifié de maniériste. Il se caractérise notamment par des grandes statues des Preuses, ces héroïnes idéalisées apparues dans la culture chevaleresque de la fin du Moyen-Âge. Ces statues de Preuses, elles sont au rythme d'une au sommet de chaque tour. Puisque le château de la Ferté-Milon en présente 4, on en connaît donc 4. Mais il fallait imaginer à l'origine un château qui aurait présenté 9 tours, et sur chacune de ces tours, une des 9 Preuses. En ce sens, il répond pleinement encore une fois au château de Pierrefonds, qui lui présentait au sommet de chaque tour une statue de Preux, ses chevaliers idéaux, et encore une fois à Pierrefonds, 9 tours pour 9 chevaliers, chacun ayant d'ailleurs donné le surnom de chacune des tours. Et puis bien sûr, au centre de la composition, l'élément le plus important, au-dessus de la porte d'entrée, aux proportions presque, j'ai envie de dire délirantes, une composition de 7 mètres de large sur 5 mètres de haut, où on trouve une figuration de l'entrée de la Vierge au paradis. Et pendant longtemps, si on y a vu le couronnement de la Vierge, une sculpture du couronnement de la Vierge, et si on lit ou on entend encore ça qui est présenté parfois, c'est parce qu'on oublie qu'en réalité les pierres ont été redistribuées au sein de cette sculpture, probablement qu'elle a été démontée, puis reconstruite, mais dans le désordre, et que finalement la composition originale était différente de l'actuelle. Il s'agit bien d'une Vierge qui ne fait pas face au Christ, mais vraisemblablement à un prêtre, et qui s'apprêtait à entrer au paradis. Mais toute cette histoire se termine mal, puisque le duc Louis est assassiné en 1407 par les partisans du duc de Bourgogne, du terrible duc Jean sans peur. Louis était le représentant d'un parti politique à la cour du roi, et Jean sans peur était son principal rival. C'est d'ailleurs de l'assassinat de Louis d'Orléans en 1407 que va naître par la suite une nouvelle guerre de Cent Ans, une seconde guerre au sein de la guerre de Cent Ans, c'est-à-dire qu'on conflit entre les Français et les Anglais, entre les Capétiens et les Plantagenets. On va voir s'ajouter un conflit de guerre civile entre le parti d'Orléans ou d'Armagnac et le parti de Bourgogne. L'assassinat de Louis d'Orléans implique que les travaux seront suspendus et surtout que le château ne sera jamais achevé. C'est la raison pour laquelle on ne connaît de la Ferté-Milon que cette façade et que l'arrière n'a jamais été bâti. Pour autant, il faut vous figurer qu'était projeté un grand château dont la cour principale, la cour seigneuriale, devait s'intégrer dans un trapèze de 90 mètres de grande base et de 90 mètres de hauteur. Pire encore, malheureusement, la façade sera abîmée par la suite. Elle sera abîmée notamment par les troupes d'Henri IV durant les guerres de la Ligue, alors que le château sera tenu par la Ligue, et les sculptures, vraisemblablement, feront l'objet soit de martèlement, soit de mitraillage. C'est la raison pour laquelle sur chacune des statues de Preuses il nous manque le visage, et seule la Vierge, comme un symbole, semble avoir été épargnée, et c'est d'ailleurs le seul visage qui nous permet de juger de la finesse et de la qualité de cette sculpture. Remarquons tout de même que tous les drapés et que tous les éléments structuraux de ces sculptures sont remarquables, et qu'on en distingue aussi au-dessous de la composition de l'entrée de la Vierge au paradis, deux écus présentant les armes des rois de France, puisque Louis d'Orléans est un puiné de Charles V, mais surmonté d'un lambel qui montre bien qu'il n'était pas destiné à devenir roi. Néanmoins, le château de Louis d'Orléans a aussi une forme particulière. Pourquoi nous reste-t-il une façade et pas plus ? Vraisemblablement, Louis d'Orléans avait de toute façon pris le parti de faire construire immédiatement, de faire dresser immédiatement une façade intégrale, en l'occurrence celle qui était la plus immédiatement visible, notamment pour marquer la monumentalité de l'ensemble, pour marquer le paysage et pour faire profiter à tous ceux qui passaient le long de l'Ourcq du fait qu'un puissant duc régnait sur ce territoire et qu'il avait décidé ici la construction d'un grand palais. Avec ce château, Louis d'Orléans avait prouvé qu'il était un véritable prince mécène, mais aussi un grand croyant. Il avait également démontré qu'au cœur de la guerre de Cent Ans, dans une période difficile qui est parfois décrite trop rapidement comme uniquement chaotique, violente et sombre, sont nés des chefs-d'œuvre de l'architecture et de l'art qui ont laissé une empreinte définitive dans nos paysages et qui forment une des signatures de ce qu'est le duché de Valois. Aujourd'hui, vous pouvez encore vous promener autour de cet édifice, vous pouvez encore le découvrir et il fait encore l'objet à la fois de recherches par les spécialistes de l'architecture, puisque tout n'y est pas tout à fait compris, puisque le parti architectural était tellement démesuré qu'il n'a presque pas de point commun, si ce n'est des châteaux qui ont, eux aussi malheureusement disparu, tels que la Bastille Saint-Antoine, la fameuse Bastille de Paris, qui sera détruite à la Révolution. Et il fait aussi l'objet, plus récemment encore, de travaux de recherche des archéologues, puisque ces derniers mois ont eu lieu des sondages archéologiques et des diagnostics au revers de cette façade du château, qui ont fait découvrir des éléments inédits, dont je ne suis malheureusement pas encore détenteur des conclusions, mais qui seront certainement à l'origine de la réécriture de quelques chapitres autour de l'histoire de cette forteresse, qui est parmi les plus remarquables que notre territoire possède. Retrouvons-nous pour le prochain épisode qui sera consacré au château épiscopal de Thiers-sur-Thèves, un magnifique château du XIIIe siècle.